c'est exactement ce que le cinéma.
Moteur !
Les films sont plus harmonieux que la vie, hein, je pense. Il n'y a pas d'embouteillage dans les films, il n'y a pas de temps mort.
Tous les cinémas du monde. Tous les cinémas du monde. Elisabeth Le Quéré, Sophie Torlotin.
Il s'appelait Ulrike Meinhof, Andreas Bader, Gudrun Enslin ou Holger Mainz. Comment, pourquoi ces jeunes gens idéalistes, militants d'extrême gauche, intellectuels ou étudiants en cinéma, ont basculé dans la lutte armée, terrorisant l'Allemagne des années 70 avec leur fraction Armée Rouge. Bonjour Elisabeth.
Bonjour Sophie. Bonjour à tous.
Retracer le parcours de ces jeunes d'Allemagne de l'Ouest, ces enfants de la guerre, c'est ce que montre uniquement avec des images d'archives un cinéaste français, Jean-Gabriel Perriot.
C'est des années de visionnement, de milliers d'heures d'archives. Après, c'était le travail de lien, c'est-à-dire le travail d'expliquer le contexte qui permet de comprendre un film de Meinhof, qui permettait de comprendre les films qu'il faisait ou les déclarations qu'il pouvait faire dans les médias. Donc c'était un puzzle compliqué, mais voilà, avec déjà des pièces en place.
Jean-Gabriel Perriot qui reviendra avec nous sur cette jeunesse allemande dans une vingtaine de minutes. C'est une histoire de bruit et de fureur. L'histoire de jeunes nés dans les années 30 ou la Seconde Guerre mondiale en Allemagne qui militent à l'extrême gauche dans les années 60. Certains basculent dans la lutte armée fondant la fraction Armée Rouge. Ils s'appelaient Ulrike Meinhof, Andreas Bader ou Holger Mainz. Bonjour Jean-Gabriel Perriot.
Bonjour.
C'est ce contexte, ce basculement, le basculement de jeunes idéalistes qui militent à l'extrême gauche et qui vont donc prendre les armes. C'est cette histoire que vous racontez dans votre premier long métrage, Une jeunesse allemande, des prémices de la fondation de la fraction Armée Rouge, hein, qu'on appelle en France communément la bande à Bader. Une décennie, des années 60 jusqu'à la fin des années 70, et la mort de ses principaux membres. Et vous le faites uniquement avec des images d'archives, où se mêle la voix officielle du pouvoir, la voix de la télévision publique allemande, la voix des chaînes françaises, mais vous montrez également les films réalisés par les membres de la fraction Armée Rouge, des films subversifs, pas de commentaires, pas de voix off, pas d'explications. Elisabeth, on suit l'histoire de la fraction Armée Rouge au présent.
Et c'est sans doute ce qui rend le film si fort. Jean-Gabriel Perriot, vous travaillez depuis longtemps, on le sait, sur des archives. Parmi vos multiples courts-métrages, on pourrait citer « Utel était criminel » qui était monté à partir d'images de femmes tendues à la Libération, ou encore 200 000 fantômes, ça c'était en 2007, un court-métrage sur Hiroshima. Et la violence, elle a toujours été au cœur de votre cinéma, sauf que là, pour la première fois dans ce nouveau film « Une jeunesse allemande », vous ne traitez plus de la violence du point de vue des victimes, mais de ceux qui ont pris les armes, ces jeunes gens dont parlait Sophie, de la fraction Armée Rouge. Qu'est-ce qui vous a conduit à traverser le miroir ?
C'était parce que, d'une certaine façon, c'est vrai que j'interrogeais que la violence du côté de la victime. D'une certaine manière, il y avait un positionnement de ma part qui était d'être toujours du bon côté de la barrière morale. C'est-à-dire que c'est toujours facile de condamner les violences de mes adversaires. Et j'avais besoin d'aller chercher, du coup, de complexifier ma propre interrogation sur la violence pour essayer de m'interroger sur ceux qui passent à l'acte, voilà, qui sont de l'autre côté, mais qui sont de l'autre côté en n'étant pas mes adversaires, pour le coup, mais des gens dont je peux comprendre en partie les motivations ou le parcours, ou même si je désapprouve leur choix et les conséquences de choix, mais en tout cas, je peux les comprendre. Je peux pas comprendre un vieux nazi, mais je peux comprendre un jeune fondateur de la RAF.
Mais qu'est-ce qui a conduit un jeune cinéaste français comme vous, Jean-Gabriel Perriot ? Parce que la lutte armée, elle existe partout dans les années 70. Ouais. Elle existe en France, elle existe bien sûr en Italie avec les Brigades Rouges, elle existe aussi au Japon. Donc qu'est-ce qui vous a conduit en Allemagne ?
Il y a une spécificité de la fraction Armée Rouge qui se retrouve nulle part, mais dans ces mouvements-là, mais aussi dans les guerres de libération en général ou dans d'autres parties du monde, c'est que... Ils ont laissé beaucoup de traces visuelles avant la fondation de la RAF, parce que certains ont produit des images, comme réalisateurs, Mainz ou même Meinhof avec ses documentaires télé. Certains ont joué dans des films, et une autre partie d'image vient du fait que plusieurs étaient vraiment des figures de la gauche allemande de ces années-là, et du coup passaient très souvent à la télévision, ou dans d'autres documentaires. Mais du coup, je pouvais dresser un portrait d'eux-mêmes par eux-mêmes. Voilà, et c'est les seuls qui ont laissé autant d'images d'eux, et du coup, ça permettait à la fois de construire un portrait visuel et de raconter le monde de la manière dont eux l'ont raconté. Parce que c'est leur discours sur le monde. Et ça, c'était quelque chose qui est vraiment inédit parce que d'un coup, on peut comprendre leurs analyses, leurs points de vue, et on peut commencer à comprendre des logiques qui vont les conduire à la lutte armée. Et moi, en tant que cinéaste, forcément, avant de voir les films, hein, la question de départ, c'était qu'est-ce que peuvent nous apprendre les films de Meinhof ou de Mainz sur le passage à la violence. Il y avait une vraie question pour moi, le cinéma.
Et dès le départ, vous ne travaillez, enfin, c'est votre parti pris de travailler qu'avec des images d'archives.
Oui, parce que ça permet ce que vous disiez tout à l'heure, de raconter un film au présent. C'est-à-dire que souvent l'histoire, elle est traitée d'aujourd'hui avec des interviews ou une voix off qui à la fois donne des clés de compréhension, dont moi je me méfie tout le temps parce que ça permet d'un côté de comprendre, mais de l'autre côté, on perd une partie de la mémoire puisque ça passe par un filtre.
Les archives que vous utilisez, Jean-Gabriel Perriot, sont principalement allemandes, mais vous avez également retrouvé des archives de la télévision française de l'époque, notamment une archive Papiquet des Verts. On est en 1970 dans une émission de grand reportage consacrée au terrorisme.
Le terrorisme politique est un ensemble d'actions indirectes, ponctuelles et désespérées, visant à obtenir un résultat politique par un effet de terreur. C'est en général l'action d'un petit groupe d'hommes bien entraînés, une action préparée en secret, déclenchée par surprise et exerçant une pression politique dramatique par une destruction ou une menace de destruction de vie ou de biens. Le terrorisme est vieux comme le monde, mais il a changé avec le temps. À certaines époques, il a presque disparu. Ces dernières années, il a pris une extension considérable. En 1968, le terrorisme représentait déjà 18% de l'ensemble des manifestations de violence dans le monde. Aujourd'hui, il représente 51%. Le monde entier vit maintenant sous la menace constante des terroristes. Il n'y a plus d'espace réservé, d'état neutre, de personnes non concernées. Il n'existe plus un seul endroit sur la Terre où l'on puisse être à l'abri des poseurs de bombes, des détourneurs d'avions, des preneurs d'otages.
Une archive de votre documentaire Une jeunesse allemande, Jean-Gabriel Perriot. 1970, là on est au point de basculement de la fraction armée rouge.
74 en fait, désolé.
Pardon alors.
Cette archive, parce qu'elle n'est pas dans l'ordre, ça a un peu une place à part dans le film, d'un coup, là, c'est l'entrée dans la télévision, quoi, dans l'ère de la télévision. Mais c'est vrai que je la place dans la chronologie en 1970, mais elle apparaît juste un petit peu après. Ça, c'est une archive que j'aime beaucoup. J'ai cherché très longtemps, en fait, dans la première partie du film, on est plutôt avec les fondateurs de la RAF.
Et on est dans les éléments de contexte aussi, cette Allemagne.
Oui, mais qui est vue, du coup, souvent par le cinéma. Et l'avantage du cinéma quand on fait ce type de film, on cherche des clés pour expliquer malgré tout aux spectateurs dans quel registre on est, parce qu'on a un film sur la RAF, mais aussi un film sur le cinéma ou la représentation de l'histoire. Et le cinéma s'analyse beaucoup. Il y a beaucoup de films sur comment marche une caméra, comment on fait des films. Par contre, la télévision, je n'ai jamais trouvé d'extrait de la télévision qui parle d'elle-même et qui s'analyse à l'époque. Et du coup, j'ai utilisé cet extrait que j'aime beaucoup parce que j'aime beaucoup la construction, quoi, cette espèce au début de choses très neutres, on a l'impression de sortir le dictionnaire sur le terrorisme. Après, il y a cette chose magnifique de 18% des actes de violence dans le monde. Le terrorisme représente 18% des actes de violence dans le monde en 68 et après en 74, 58. J'aime beaucoup ce chiffre parce qu'en fait, si on donne une baffe à son gamin, c'est pas du terrorisme. La deuxième, par contre, c'est du terrorisme. Enfin, ça a aucun sens, ce chiffre a aucun sens. Et voilà, il y a la peur qui s'installe et là, on voit tout ce qui va se développer dans la suite du film et cette installation à la fois d'une part de bêtise et d'une la manière de fonctionner sur la peur et sur l'émotionnel.
Mais ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on voit l'évolution du langage officiel sur ces gens de la RAF. Oui. C'est-à-dire qu'au début, par exemple, Ulrike Meinhof, on la traite d'anarchiste, de militante, et le mot terroriste, il arrive très très tard.
Oui,
une sorte d'appauvrissement du langage de la télé.
Oui, il m'est très longtemps arrivé. D'ailleurs, il est un tout petit peu employé au début des années 70, vraiment par les plus réactionnaires de la droite allemande. Mais on met très longtemps parce qu'elle est considérée... Le problème qu'ils ont avec Meinhof, notamment, c'est qu'elle était tellement en place, tellement connue, reconnue pour ses qualités. Du coup,
elle participait tout le temps à des débats à la télé. Oui. On le voit très bien, d'ailleurs, dans votre film.
Voilà. Et elle connaît aussi, personnellement, tous les hommes politiques de l'époque. Donc, ils peuvent c'était une ancienne collègue d'une certaine manière, donc ils ont du mal à la définir. En tout cas, comme terrorisme, c'est pas possible. Et à un moment, autour de sa mort, ce mot arrive et d'un coup, voilà, tout est redéfini juste par le terrorisme en enlevant. Parce que même quand on dit anarchiste, même s'ils étaient pas, ils se définissaient pas comme anarchistes, anarchiste, c'est un mot politique. C'est un positionnement politique. Terroriste, c'est pas un positionnement politique.
Tout à coup, on la met dans une petite boîte.
Voilà, on la met dans une petite boîte et c'est un mot qui permet aussi d'effacer le passé, quoi. Les logiques, le parcours...
Le processus,
oui.
Mais alors, ces jeunes Allemands qui se rencontrent dans le courant des années 60, ils ne se rencontrent pas en se disant tout de suite, on va poser des bombes.
Non.
Il y a une évolution, justement. Est-ce que montrer ce basculement, ça a été complexe pour vous avec les images d'archives, Jean-Gabriel Perriot?
Oui, parce qu'il n'y a pas il manquera toujours une archive, c'est celle-là, c'est celle du passage à l'acte.
Même celle de leur entraînement dans des camps à l'étranger, par exemple.
Voilà, ça, il n'y en a pas. Ça a disparu. Mais là, on est déjà en plus, déjà après, quoi. Mm. Mais c'est vraiment le moment où d'un coup, ça se décide, où ils décident collectivement d'y passer et qu'ils le font. Il n'y a rien qui nous renseigne là-dessus. Il n'y a pas d'image, il n'y a même pas de texte. Il n'y a vraiment aucune. D'un coup, il y a une décision qui leur appartient et qui nous échappera toujours et qui échappe dans les images.
Comment vous avez fait? Vous avez visionné des centaines et des centaines d'archives parce que votre film, c'est vraiment un film de montage. De collage, comment vous avez procédé?
C'est des années de visionnement, de milliers d'heures d'archives, certaines très intéressantes, d'autres pas du tout. C'est juste du temps, c'est du temps, quoi.
Mais elles se prennent sens les unes par rapport aux autres, c'est comme un puzzle.
Oui, c'est comme un puzzle, mais avec des pièces. Ça serait un puzzle, on a déjà le bord, en fait, ou les quatre pièces du coin. Il était très important qu'il y ait les images qu'ils ont faites ou dans lesquelles ils apparaissent. Ça faisait déjà. Ça, un nombre plus réduit. Il y a des événements chronologiques qui apparaissent.
Par exemple, la visite du Shah d'Iran dès le départ, 1967, où les manifestants allemands sont réprimés par les officiers de sécurité iraniens sans que la police allemande ne réagisse.
Avant qu'elle réagisse et qu'elle les tabasse à son tour.
Donc ça a été un déclencheur.
Voilà, et ça, par exemple, fallait que ça y soit. Bon, à l'époque, je ne savais pas qu'il y avait ce film de Meinhof qui en parle directement. Donc après, il y a des moments où la chronologie rencontre les protagonistes. Après, c'était le travail de lien, c'est-à-dire le travail d'expliquer le contexte qui permet de comprendre un film de Meinhof ou d'expliquer le contexte qui permettait de comprendre les films qu'il faisait ou les déclarations qu'il pouvait faire dans les médias. Donc c'était un puzzle compliqué, mais voilà, avec déjà des pièces en place.
Mais ce qui m'a fasciné, c'est qu'en fait, je pensais que votre problème, c'était de faire face à une pléthore, à une masse énorme d'archives. Et en fait, j'ai lu quelque part que vous aviez manqué d'archives.
Oui.
Et qu'entre autres, vous aviez manqué d'archives sur les premiers attentats de la bande à Baader en 1972.
Oui, c'était
une chose. Comment c'est possible?
Je me suis fait un peu piéger là-dessus. C'est-à-dire que de manière un peu idiote ou naïve, je me suis dit, bon, alors, tout ce qui est télévision, les attentats, tout ça, va y avoir, je vais taper à n'importe quelle chaîne et je vais avoir les images. Et en fait, les Allemands ont commencé à archiver beaucoup plus tard que nous. Donc, à partir du milieu des années 70 et encore. Donc, du coup, avant, tout est fragmentaire. Et finalement, j'ai perdu un temps fou à récupérer des images que je supposais faciles, c'est-à-dire les images du journal télé allemand et ça. Quasiment tout a disparu.
Mais est-ce qu'il est possible de faire des films en Allemagne aujourd'hui?
Alors c'est bon.
Impossible d'un point de vue même philosophique. En gros, l'idée, c'était plutôt, quand je partais sur l'idée, c'était de... Est-ce qu'il est possible de faire des images en Allemagne?
Est-ce que c'est possible de faire des images en
Allemagne? Est-ce qu'il est possible d'avoir l'image au sens de l'imagination? En gros, est-ce qu'un Allemand est capable de faire une image? Puis on verra à la fin du film si c'est oui ou si c'est non.
Voilà la voix de Jean-Luc Godard, suivi de l'International. L'extrait figure en exergue de votre documentaire Une jeunesse allemande, Jean-Gabriel Perriot. Et ce qui est frappant aussi dans votre film, c'est le rapport à l'image, à la force du cinéma, des membres de la fraction Armée Rouge.
Oui, c'était une... je crois ils ont essayé beaucoup de choses pour agir sur leur monde, enfin pour aller vers leur révolution. Et... il y a du hasard hein, que plusieurs d'entre eux étaient des fabricants d'images.
Ils étaient étudiants à l'école de cinéma.
Quelques-uns étaient étudiants à la toute nouvelle école de cinéma de Berlin. Donc Meinhof travaillait à la télévision. Et d'autres étaient plutôt proches pour des questions de hasard. Parce qu'en fait, le milieu politique en Allemagne à ce moment-là, particulièrement à Berlin, est le même que le milieu artistique. Tout se mélange, donc du coup, ils papillonnent très, très facilement d'une chose à l'autre. Donc, il y a des petits liens pour beaucoup au cinéma en général. Et pour eux, le cinéma est un espace de liberté. contre la télévision, contre les médias dominants, avec ses traits. Par exemple, les étudiants étaient très focalisés sur Diga Vertov, c'est-à-dire comment, voilà, comment le cinéma pourrait être utile, comment il peut raconter le monde. Et c'est quelque chose qui m'a beaucoup touché chez eux, parce qu'ils le font de manière très premier degré. Enfin, ils y croient vraiment. Donc, il y a une part de naïveté, parce qu'évidemment, on ne fait pas la révolution avec un film. Mais il y a quelque chose dans cette croyance qui m'a beaucoup ému, moi, parce que c'est une croyance qu'on a perdue aujourd'hui.
Mais vous, est-ce que vous la gardez, cette croyance, Jean-Gabriel Périot?
Non.
Parce qu'au cœur de leur film, c'est ça, il y a cette croyance que le cinéma sert à agir et à critiquer. Vous trouvez ça naïf? Ou vous vous retrouvez?
Non,
dans
je la regarde avec un peu de, presque de mélancolie, qu'on puisse plus y croire. C'est-à-dire, je pense que le cinéma est utile. On a besoin de contre-histoire, ce que permet le cinéma. Mais je ne crois pas qu'un film puisse faire la révolution. Ça, ou que qu'un film puisse changer le monde. C'est un espace de dialogue, c'est un espace de discussion, c'est un espace poétique, le cinéma. Donc on en a besoin, mais je ne crois pas qu'avec un cinétracte, on va faire la révolution.
Mais est-ce que vous pensez que votre film, par exemple, peut contribuer à donner une autre image de la fraction armée rouge? Parce qu'il y a eu énormément de films, les Allemands entre autres ont fait beaucoup de films sur la fraction armée rouge, qui étaient souvent des films vraiment dérangeants. Enfin, je ne sais pas si vous les avez vus, je ne sais pas si l'envie d'une jeunesse allemande, elle procède aussi de ça.
Mais... Globalement, oui, ces films sont assez mauvais, mais je les ai découverts après le projet de mon propre film. Donc, mais je m'intéresse dans ce film-là, mais dans tout mon travail en particulier, c'est comment l'histoire est écrite. Et en ça, il y a une nécessité politique, c'est-à-dire que c'est toujours les vainqueurs qui écrivent l'histoire. Donc c'est vrai que moi, ce que je savais de la fraction armée rouge avant de faire le film, je savais rien. Je savais que c'était des terroristes, des gauchistes dévoyés qui avaient posé 3 bombes, mais je savais rien du tout. Et du coup, moi, je veux redonner à voir l'histoire telle que je l'ai découverte a posteriori, et comment, surtout sur une histoire si claire, on voit comment elle est écrite. Eux, ils essayent de raconter leur monde, mais c'est pas efficace. Et on voit ensuite dans la dernière partie du film comment petit à petit on efface leur histoire, on les transforme en monstres, en terroristes, pour éviter politiquement d'interroger la société allemande ou les failles politiques de cette société-là. Il faut absolument occulter l'histoire telle qu'elle a été. Voilà, donc le film peut servir au moins peut-être juste à ça, c'est de ramener une histoire dans sa complexité.
Mais aujourd'hui, c'est pas anodin dans le monde tel qu'il est aujourd'hui. C'est pas du tout anodin de faire un film comme Une jeunesse allemande.
Non, pas du tout. Moi, je sais que ça vient de choses aussi, pour moi, incompréhensibles que la gestion après coup du 11 septembre. Enfin, des choses aussi affreuses que ça, d'aller faire des guerres à l'étranger parce qu'on s'est pris 2 avions dans une tour, la manière dont Bush pouvait parler à l'époque, la manière dont on continue encore, aujourd'hui, d'utiliser comme le terrorisme, la manière dont on le gère politiquement est juste pas possible, est juste affreuse. Ça sert de prétexte à faire autre chose. Et sous couvert de terrorisme, de peur, etc., on peut faire n'importe quoi et ça passe. Il y a une chose qui est assez terrifiante. Et ça marche parce que, à chaque fois, justement, on crée du monstrueux, quoi. On va jamais s'interroger sur d'où vient cette violence. Il y a l'interdiction de le penser parce que ça serait l'excuser, cette violence. Voilà, ça c'est quelque chose qu'en tout cas, je refuse et qui s'inscrit dans ce projet-là. C'est-à-dire, faire ce film-là, ce n'est pas excuser leur action, mais c'est nécessaire pour réfléchir et essayer de comprendre des processus qui, eux, se répètent.
Alors, il y a eu plusieurs périodes de la vie de la fraction armée rouge. Votre film, à vous, Jean-Gabriel, s'achève à la fin des années 70. Pourquoi ?
Parce que c'est le moment où vont mourir les protagonistes que je montre au début du film. C'est vrai que l'histoire de la RAF va jusqu'à 98, 1998, avec le... Même je dis une bêtise un petit peu plus tard, mais en tout cas avec les générations qui vont se continuer. Mais en tout cas, moi, je voulais suivre les fondateurs de la RAF. Et du coup, le film s'arrête quand ils meurent. 77. Enfin, ils meurent par vague, mais les derniers, Bader et Hansin, meurent en 77.
Leurs actions ont duré, enfin, leurs actions violentes ont duré finalement peu de temps. Ils ont été arrêtés relativement rapidement. Et
oui,
puis mis en prison.
Oui, il y a eu une particularité. Il y a d'autres mouvements de lutte armée à ce moment-là en Allemagne, des années 70. Même en 69, il y a 1 millier d'attentats à Berlin, contre des banques ou des institutions, mais en tout cas qui font pas de mort. Mais c'est quand même un moment où ça bouge beaucoup. Et tout de suite, dès que la RAF, elle se fonde, la police et l'État se focalisent que sur la RAF. Et je pense que c'est notamment du fait que Meinhof, Mahler, Mabader et Hensin sont des gens qui sont connus. Et du coup, ça pose un vrai problème à l'État et à la police, parce qu'eux, il faut les arrêter tout de suite, parce que c'est pas des gens qu'on peut spontanément traiter de décérébrés, d'idiots. Voilà, les gens les connaissent, donc ça se focalise sur eux. Et en fait, au début, ils font vraiment pas grand-chose, mais le fait qu'il y ait cette répression policière fait qu'il y a des morts, en fait, tout le temps. Voilà, il y a un jeu de course-poursuite où ils se tuent les uns les autres. Et finalement, il y a une semaine d'action, en 72, mais des actions très importantes qui font beaucoup de blessés et de morts. Et ils sont tous arrêtés les semaines d'après. Là, vraiment, d'un coup, il y a une... En 4 ou 5 semaines, tous les membres principaux sont arrêtés. Et après, commence cette longue... pour eux, ce long moment de prison qui a été très complexe. Voilà, que je montre un peu dans le film, mais avec des processus d'isolement très sévères sur certains d'entre eux. Une manière de gérer, enfin, pour la justice allemande, de très particulière, de gérer ces prisonniers-là, qui a fait que l'Allemagne a été au banc de tous les classements sur la démocratie ou les conditions de détention, parce que c'était considéré comme de la torture blanche, même, à ce point-là. Donc, du coup, c'est une autre histoire s'ouvre qui est assez, voilà.
D'ailleurs, dans une séquence assez marquante, sur fond noir, on entend la voix d'Ulrike Meinhof, qui dénonce l'isolement qu'elle décrit comme une torture.
Die Frage ist, wie kann ein isolierter Gefangener den Justizbehörden zu erkennen geben, angenommen, dass er es wollte, dass er sein Verhalten geändert hat.
Voilà, Ulrike Meinhof, hein, c'est bien d'entendre sa voix aussi dans cette émission. Elle parle de torture en parlant de ses conditions de détention et d'isolement. Holger Mainz, lui, il est d'ailleurs mort d'une grève de la faim en 1974. Il réclamait tous le statut de prisonnier de guerre. Tout à l'heure, vous parliez justement du fait qu'on les avait qualifiés assez schématiquement de terroristes pour éviter d'avoir à regarder les raisons. Et c'est vrai qu'on ne l'a pas dit encore, mais eux, ils interviennent dans un contexte très particulier, dans cette Allemagne où ces jeunes, je pense notamment aussi après à leur suite à Fassbinder, demandent des comptes à la génération précédente en leur demandant ce qu'ils ont fait pendant la guerre.
Oui, il y a un vrai conflit de génération. C'est la génération d'après-guerre qui grandit dans une Allemagne amnésique à ce moment-là. Enfin, et du coup, ils découvrent... tous au milieu des années 60, enfin, en tout cas, pas Meinhof et Mahler, parce qu'ils sont un peu plus âgés que les autres, mais en tout cas, les autres découvrent l'histoire de l'Allemagne très récente, d'un coup, parce qu'il y a un changement de programme à l'école, tout simplement. Donc, d'un coup, il y a toute une génération qui découvre le passé nazi, et tous le racontent, hein, rentrer chez soi le soir et dire « Papa, maman, qu'est-ce que vous avez fait ?»« Enfin, qu'est-ce que vous avez fait ? Pourquoi vous ne nous l'avez pas dit ?» Pourquoi personne ne nous l'a appris? Donc, quand on découvre à 15 ans ça, forcément, ça marque quelque chose. Et ce qui va se passer, c'est que, ils se retrouvent aussi, c'est pas qu'une histoire symbolique, c'est-à-dire que l'ensemble des gens qui travaillent partout dans les administrations, les professeurs d'université, d'école, les flics, les juges, les hommes politiques, sont une génération qui a participé au Troisième Reich. Et ils se retrouvent, du coup, voilà, face à une société entière.
Face aux questions de la jeunesse.
Ouais, qui désapprouve, un conflit, voilà, ils refusent tout parce que c'est leurs adversaires, c'est les perpétrateurs, ils sont face aux perpétrateurs. Et du coup, ça s'inscrit là-dedans et arrive pour la RAF, c'est très important, c'est le Vietnam. Et ça se retrouve dans les attentats puisqu'ils vont faire exploser deux QG américains, deux bases américaines, parce qu'ils ne veulent pas être co-responsables de ce qui se passe au Vietnam. Et comme l'Allemagne participe directement à la guerre au Vietnam, en servant d'arrière-base aux Américains, ils sont dans un pays qui participe à une guerre qu'ils jugent vraiment infâme et contre lequel il faut résister.
Jean-Gabriel Perriot, merci. Une jeunesse allemande, votre documentaire sort en salle en France mercredi prochain, mais vous le montrez en avant-première lundi au cinéma MK de Beaubourg.
Et est-ce qu'il a une date de sortie en Allemagne prévue ?
Il est sorti au printemps dernier.
Ça provoque un débat ?
Ça provoque un débat, pas tant que ça. Les gens connaissaient déjà l'histoire d'une certaine manière, en tout cas plus que nous, sauf les plus jeunes qui ne la connaissent pas du tout. Donc ça a eu découvert une histoire qui était un peu difficile pour eux parce qu'ils se retrouvent face à une histoire qui est problématique. Les gens qui ont connu cette histoire-là ont fait des retours plutôt très chaleureux. Et il y a eu débat juste un soir, un vrai débat, mais très étonnant, où j'étais avec un des fondateurs de la RAF qui a survécu, qui est sorti de prison, après 30 ans de prison, et qui est venu avec moi présenter le film. Et là, il y a eu du débat. Delvaux. Et là, il y a eu des débats, mais comme il y a eu des débats, les mêmes qu'à la fin des années 60, ils reparlaient de la nécessité de passer à la violence. Pourquoi d'accuser les gens de la RAF d'avoir été les fossoyeurs de la gauche en faisant ça. Enfin, il y avait eu un débat comme à l'époque, et moi j'étais un peu là pour le coup, un peu à part. Hein, ça, le débat me dépassait, et c'était mais excessivement intéressant.
Tous les cinémas du monde, c'est fini pour aujourd'hui. Au micro, Elisabeth Le Quéré
et Sophie Torlotin.